Merci de m'accueillir et bonsoir à tous. Alors effectivement, je reconnais quelques têtes qui étaient aux poussières, donc il y aura, ben voilà, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, mais j'espère un peu plus développées et puis pour plus de temps pour échanger dessus. Je vous propose, je me suis dit que peut-être je pouvais commencer par essayer de définir ce que c'est que l'espérance, une petite définition de l'espérance, et puis je structurerai mon topo en trois temps comme il se doit. Une première partie qui sera plus théologique, bon, on va faire un peu de théologie ensemble, j'espère que ça ira, autour de vraiment qu'est-ce que l'espérance chrétienne, sur quoi elle se fonde, et du coup qu'est-ce que ça peut nous dire de l'espérance en général. Et puis ensuite, un temps autour de... Enfin, ce sera la partie un peu la plus costaud. Un deuxième temps autour de la filiation, peut-être, entre l'utopie et l'espérance, la nécessité d'un horizon pour espérer. Et un troisième temps plus spirituel, où peut-être là, le fait d'être religieuse dans une congrégation ignatienne va ressortir autour de cette notion de combat spirituel. Je crois que l'espérance est un combat spirituel et peut-être quelques clés spirituelles pour tenir dans l'espérance. Alors, j'ai un gros rhume qui est en train de monter là, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises et puis vous excuser la voix et le... donc pour tenter de définir l'espérance, alors en français on le sait, on a deux mots, l'espoir, l'espérance. Et ça nous aide peut-être à distinguer, à réfléchir. En tout cas, c'est ce que font beaucoup d'auteurs pour parler de l'espérance. Alors, je vous cite trois auteurs, mais Jacques Ellul qui écrit « C'est au moment où il n'y a plus d'espoir qu'il faut commencer à espérer ». Bernanos, l'espérance est... La plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté. N'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Et puis Paul Ricoeur écrit « L'espérance est un optimisme qui a connu les larmes ». Et alors... Voilà, on sent bien que chez chacun, il y a quelque chose, l'espérance, il différencie l'espérance et l'espoir, et qu'on sent bien que l'espérance est au-delà de l'espoir, et qu'elle suppose même de dépasser l'espoir. Peut-être, j'aime assez quand Ricoeur parle, lui, plutôt d'optimiste, ça nous permet de nous dire que c'est pas qu'une histoire de... Enfin, parce qu'en anglais ou dans d'autres langues, on n'a qu'un mot. Donc, différencier l'espérance d'un optimisme. Quelque chose d'une traversée de cet optimisme, du passage au-delà, voilà, un au-delà qui ouvre peut-être à l'espérance. Et d'une espérance qui pourrait peut-être même survenir qu'après la traversée du désespoir. Je citerai à un moment, quelquefois, peut-être... Catherine Chalier, une philosophe spécialiste de Lévinas, qui a écrit « Présence de l'espoir ». Et Corinne Pelluchon, philosophe aussi, dont le dernier livre s'appelle « L'espérance ou la traversée de l'impossible ». Et pour rendre à César ce qui est à César, ces deux autrices, je les ai découvertes là récemment, enfin, je les connaissais, mais ces écrits-là, par Cécile Renoir. Fondatrice du campus de la transition, ceux qui connaissent. Voilà. Et en tout cas, Cécile, à partir des écrits de Corinne Pelluchon en particulier, parle d'une spirale de l'engagement, en disant on passe toujours dans nos engagements de l'espoir au désespoir, à la désespérance, une forme de désespoir profond qui n'a même plus d'objet, qui envahit tout, quoi, à l'espérance. Voilà. L'espoir. Désespoir, désespérance, espérance. Enfin, l'espérance, on sent bien qu'elle arrive au final, peut-être. Qu'elle a quelque chose de plus fondamental, quoi, du coup, que l'espoir et que l'optimisme, encore plus. Peut-être que la différence, on pourrait aussi dire, l'espoir, c'est j'espère que, c'est un espoir qui a un objet. J'espère que nous ne dépasserons pas de degrés de réchauffement climatique. L'espérance, elle est plutôt une manière de nous tenir dans l'existence. C'est plus une posture, pas forcément avec un objet en tant que tel. Une manière de nous tenir dans l'existence, disait, en décidant chaque jour de vivre et de transmettre la vie plutôt que de choisir la mort. En choisissant de risquer de vivre, ou risquer, même si je peux perdre, si je risque, je peux perdre, mais plutôt que de me replier sur ce que j'ai déjà, accepter de risquer parce que c'est accepter de vivre. L'espérance, elle a quelque chose à voir avec le fait de tenir debout dans l'existence, en croyant envers et contre tout qu'il reste du bon à vivre, quoi qu'il arrive. Que la vie vaut et vaudra la peine d'être vécue. Et surtout que le pire serait de gâcher les potentialités qu'il y a dans le présent par peur du futur. Bien que l'espérance, c'est voilà, cette manière de tenir debout en acceptant de vivre, en acceptant de risquer, en acceptant de. Et surtout pas de par peur du futur, par peur qu'il y ait du mauvais qui arrive, finalement de déjà plus vivre. Et de faire une projection de cette peur dans le présent. Par peur que notre espérance soit déçue. Voilà, espoir, espérance, espérance qui est peut-être un désespoir dépassé. Dans la tradition chrétienne, pas seulement, hein, ça, dans la tradition de la philosophie des vertus, depuis Aristote, on parle de l'espérance comme une vertu. Bernanos parle même d'une vertu, d'une détermination héroïque de l'âme, de vertu héroïque. Une vertu, ça veut dire que, on parle de vertu, on parle du coup d'un comportement qui est devenu habituel, hein, d'un habitus, une forme d'habitude inscrite, quoi. Est vertueux celui qui s'est entraîné à vivre d'une certaine manière et qui, du coup, si la vertu de prudence va être prudent quand la situation va en fonction de la situation qui se présente. Un habitus bon, dit Thomas d'Aquin et la morale chrétienne à la suite. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut développer. Une vertu, il y a quelque chose d'un exercice, quoi. Ça s'entraîne, ça s'exerce. Et c'est ce qui va déterminer ensuite notre intelligence, notre volonté à réagir de telle manière dans les situations qu'on rencontre. Voilà, plus on la met en acte, plus elle se développe et devient un comportement, une manière d'être, un trait de notre caractère. On pourra revenir sur l'éthique de la vertu, mais c'est justement cette éthique qui pense que la morale n'est pas simplement le fait d'appliquer des lois morales, mais plutôt de devenir ce que nous voulons être, et un enjeu éducatif. Comment je veux être pour mener une vie bonne, et comment je développe ces traits de caractère-là. Donc une vertu, enfin, ce qui m'intéresse là, c'est d'entendre que ça s'entraîne, et que nous pouvons nous entraîner à l'espérance. J'y reviendrai dans ma troisième partie, mais. Et en même temps, en morale chrétienne, on parle de l'espérance comme de la foi et de la charité comme des vertus théologales, donc qui infusent. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est quelque chose aussi qui est reçu, qu'on ne se fabrique pas l'espérance, qu'on ne se la donne pas à soi-même. Et je crois que ce n'est pas contradictoire, quoi. On pressent bien qu'elle nous vient un peu d'ailleurs, qu'elle nous surprend, qu'elle nous est donnée, et en même temps qu'on peut l'accepter ou pas, qu'on peut l'entretenir ou pas. C'est pas le fruit d'une méthode couée, j'ai envie de dire, d'un enthousiasme qu'on pourrait se fabriquer soi-même où ça tient pas longtemps. Dans ces cas-là, et ça, c'est pas l'espérance profonde, peut-être l'espoir. On peut un peu, de temps en temps, essayer de, voilà, de s'entraîner à plusieurs. Mais on sent bien aussi qu'effectivement, on peut la refuser ou l'accueillir. Bon, voilà, ça, c'était pour ma longue introduction. Je propose d'aller voir donc vraiment sur quoi on appuie notre espérance en christianisme et qu'est-ce que ça nous dit de l'espérance chrétienne et peut-être de l'espérance pour tout le monde. Dans l'espérance chrétienne et dans la Bible, l'espérance, elle est toujours une espérance de la Pâque, hein, dans la Bible. Du passage de Dieu dans nos vies qui ouvre des brèches dans l'impossible. Et vous le savez pour beaucoup, mais la Bible n'est au fond que relecture de deux expériences fondamentales, peut-être trois si on compte l'exil, mais le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte par le peuple hébreu, la sortie de l'esclavage. Et la mort, résurrection du Christ pour le Second Testament, le Nouveau Testament. Deux expériences d'horizon totalement bouchées, où une brèche s'ouvre. Et toute notre espérance croyante, judéo-chrétienne, se base là-dessus. La traversée de la mer Rouge, j'espère ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais juste pour rappeler un peu l'histoire. Donc le peuple hébreu est en esclavage en Égypte, soumis à une tyrannie de plus en plus forte, un horizon bouché, fuit. Et au moment où il fuit, les pharaons et son armée les pourchassent et ils arrivent devant la mer Rouge. Et au fond, c'est une situation où il y a la mort derrière. L'armée égyptienne qui les pourchasse et la mort devant. La mer Rouge, avancer, c'est rentrer dans la mer, c'est rentrer dans la mort. Alors, clairement, pour le peuple hébreu, c'est vraiment le lieu de la mort, la mer. C'est bouché de partout, quoi. Et l'expérience, alors, encore une fois, on ne prétend pas. Hein. Ouais, bon, on pourrait faire tout un truc sur l'historicité de la Bible, c'est pas là la question, mais l'expérience qui est vécue, c'est celle d'une traversée de l'impossible. Dans cet horizon complètement bouché, une brèche s'ouvre. Mais ce qui est intéressant, c'est au fond, alors il y a deux récits de la traversée de la mer Rouge, peu importe. En tout cas, il y en a un où c'est assez clair. On parle de la mer qui se retire au fur et à mesure où le peuple avance dans la mer. D'une certaine manière, on peut se dire, enfin, ils sont entre la mort et ils décident d'avancer. Et ils font l'expérience que la mer se dégage au fur et à mesure où ils avancent. Et d'une certaine manière, enfin, voilà, il y a quelque chose là d'une espérance qui fait avancer dans l'impossible et qui donne de découvrir que c'est possible de traverser la mer Rouge. Mais il faut le tenter, enfin, il faut s'y risquer, il faut oser croire qu'il y a un passage là. Je vous cite juste Catherine Chalier, qui est donc très inspirée par la culture juive, et donc, qui est juive ou qui est en tout cas inspirée par la Bible. Quand on fait face à une mer qu'il faudrait franchir parce que l'espoir commence sur l'autre rive, mais qu'on ne dispose d'aucun moyen matériel pour cela et qu'on est incapable de le traverser à pied sec, que peut-on faire? On peut, enseigne le rabbi de Gour, commencer par laisser se fendre la mer désespérée que l'on porte en soi-même. Ainsi seulement a-t-on une chance de passer sur l'autre rive, etc. Voilà, j'aime cette expression de commencer par laisser se fendre la mer désespérée que l'on porte en soi-même. Commencer à mettre un pied dans la mer Rouge, quoi. Et croire et faire l'expérience que quelque chose s'ouvre là. Mais ça ne se fait pas si on n'ose pas ce premier pas. Donc, traverser de la mer Rouge, et disait pour nous, chrétiens, l'expérience fondamentale. C'est l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ. Là aussi, comme brèche ouverte dans l'impossible, dans l'absurde de la mort, dans l'horizon le plus bouché qui soit, qui est un tombeau. Voilà, hein, dans les évangiles, on raconte la mort de Jésus et puis l'étonnante expérience des disciples qui le rencontrent à nouveau vivant, 3 jours après, au matin de Pâques. Cette expérience insaisissable, enfin, que s'est-il exactement passé et, voilà, qui leur fait raconter ça avec ces mots-là pour nous dire quelque chose de cette expérience, encore une fois, impossible à transmettre probablement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a des effets impressionnants puisque le petit groupe des disciples qui était terrorisé après l'arrestation et la mort de Jésus se met à sortir de chez lui, et puis aller, et ça c'est historique, enfin c'est les effets réels, tangibles en tout cas, et à risquer d'annoncer une parole qui de fait va les conduire pour beaucoup à la mort eux aussi, mais les fait dépasser complètement leur peur, quoi. Donc voilà, dans un horizon complètement bouché, tous leurs espoirs étaient mis dans un homme qui a été crucifié, mis à mort de la manière la plus infâme qui soit, un horizon qui s'ouvre. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de creuser qu'est-ce que ça veut dire que notre espérance soit basée sur la mort et la résurrection du Christ, sur ce mystère pascal. Ça me semble toujours important à redire parce que ça veut dire que c'est une confiance dans un possible, dans une brèche, dans une nouveauté encore possible, même dans les horizons les plus fermés. Mais qu'en même temps, cette nouveauté, elle ne jaillit que dans une traversée de la mort, que dans une traversée peut-être du désespoir. Donc, quand on parle de mystère pascal, en christianisme, on ne parle pas de la mort puis la résurrection. On parle de quelque chose qui est ensemble. Enfin, c'est jamais l'un sans l'autre, quoi. C'est ça que je veux dire. Même, petit aparté, mais quand on célèbre la semaine sainte, on ne fait pas, mais moi, de manière un peu, je ne sais pas quoi, c'est pas une reproduction, le vendredi saint de... une mémoire de la mort du Christ, comme si on était focalisé sur la mort et puis le dimanche sur la résurrection. Le vendredi saint, on fait mémoire de la mort, mais dans l'espérance déjà de la résurrection. Et le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection, mais on la célèbre toujours en rompant le pain, le corps rompu, en faisant mémoire de la mort. Enfin, juste pour pas dissocier les choses de manière artificielle et en faisant comme si on mimait un truc. On est bien dans un contexte de foi où c'est la mort et la résurrection, le mystère total qui est pris ensemble. Donc ça veut dire que notre espérance, elle n'est pas sans la mort, quoi. Que, deuxième point, elle n'est pas sans l'espérance du nouveau. Et troisième point, que ce nouveau, il n'est pas déconnecté, je reviendrai, de l'expérience actuelle, de l'expérience... Donc voilà, c'est pas une espérance sans la mort. Notre espérance chrétienne, c'est une espérance du mystère pascal, enfin, née du mystère pascal, donc d'un ressuscité qui a d'abord été le crucifié. Et la résurrection, elle n'est pas sans la crucifixion. Voilà, quand dans les évangiles qui racontent cette rencontre des disciples avec le Christ ressuscité, ils tiennent à nous dire qu'ils le reconnaissent aux marques de sa passion. On marque des coups dans les mains, et les pieds du coup de lance au côté. Donc que le ressuscité est toujours d'abord le crucifié, ça veut dire que notre espérance, elle n'est pas naïve, elle n'est pas dans le déni, elle n'est pas justement, comme on le disait tout à l'heure, un optimisme léger. Elle n'est pas un tout va bien s'arranger, ou un... Encore pire, il n'y a pas de problème. Non, dans notre contexte d'aujourd'hui, dans un contexte d'anthropocène, notre espérance, elle ne nie pas qu'il y a des morts, qu'il y a des morts à l'œuvre, parce que les dérèglements écologiques produisent des victimes, et qu'une espérance qui le nierait, ça serait une offense de plus qui serait faite aux victimes. Et voilà, l'espérance chrétienne, elle peut entendre ça, je crois. Elle peut entendre le cri des victimes. Elle ne nie pas la mort à l'œuvre parce qu'elle reconnaît dans ces crises sociales, dans ces crises écologiques, un péché, c'est-à-dire en christianisme, ce qui va contre le désir fondamental de Dieu, qui est le désir de vie, et le désir de vie pour tous. Elle reconnaît un péché, et dans la Bible, le péché, le fruit du péché, c'est toujours la mort. Donc voilà, reconnaître qu'il y a de la mort à l'œuvre dans la crise que nous traversons, c'est aussi accepter de reconnaître qu'il y a là un péché, donc quelque chose qui va contre le désir fondamental de Dieu. Et puis, dire qu'elle ne nie pas la mort, c'est aussi dire que c'est une espérance qui reconnaît que quelque chose va mourir, même que quelque chose doit mourir de nos systèmes économiques, de nos modes de vie actuels, si nous voulons avoir une chance que quelque chose de nouveau puisse naître, puisse jaillir. Voilà, que la nouveauté, elle viendra si quelque chose meurt, quoi, si nous acceptons. Quelque chose meurt. J'ai envie de citer le pape François qui, dans Laudato Si, dans cette encyclique au numéro 194, sur « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. » Donc, notre espérance chrétienne, elle ne peut pas être une espérance qui suffirait de promouvoir des arrangements superficiels, des justes milieux, des arrangements techniques, des arrangements verts pour faire perdurer un système. Au contraire, elle accepte les pertes en cours et à venir sans s'accrocher aux solutions que nous connaissions, le progrès technique, la croissance économique, transformée en croissance verte, ou sans s'accrocher à nos privilèges d'occidentaux, mais elle permet de percevoir ce qui n'est pas durable, ce qui doit mourir, et c'est probablement le seul moyen de pouvoir repérer ce qui germe déjà de neuf, de pouvoir repérer ce qui germe de différent, mais d'encore possible, même dans des horizons qui se rétrécissent. Voilà, à condition d'accepter que quelque chose change, que quelque chose meure, que quelque chose bouge et qu'on n'en reste pas dans juste s'accrocher à ce que nous connaissons depuis toujours. Petite citation de Corinne Pelluchon. Ce que nous affrontons est la possibilité d'une impossibilité, l'effondrement de notre civilisation. Si l'éco-anxiété et la dépression climatique sont une étape nécessaire dans le cheminement qui conduit du déni à la prise de conscience de la possibilité d'un effondrement, elle ne condamne pas les individus qui en font l'expérience à l'apathie. Donc, au fond, pour elle, dans ce cycle hein, dont je parlais tout à l'heure, certainement, et dans son livre, on sent bien qu'il faut peut-être aller jusqu'au bout du désespoir, au sens où jusqu'au bout de la prise de conscience qui forcément entraîne une part d'anxiété, pour pouvoir reconnaître nos complicités, pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir sortir du déni et pouvoir alors s'engager dans quelque chose qui va nous conduire à une espérance épurée. Ce sentiment que tout est fichu, il peut être salutaire parce que voilà, il nous permet de voir nos aveuglements collectifs. Et que c'est à travers ça que quelque chose va pouvoir s'ouvrir et que nous pouvons repérer autre chose. Voilà, donc une espérance qui regarde en face la mort, quoi. Mais qui ne s'arrête pas là. Sinon, c'est plus une espérance, et puis c'est plus une espérance du mystère pascal qui passe par la mort, qui traverse la mort dans. Pour recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de, du neuf, de la vie. Donc une espérance qui nous, nous sommes invités à ne pas nous laisser fasciner par la mort. Parce que ça, c'est aussi un risque, hein. C'est fascinant. De croire qu'elle n'a pas le dernier mot. Et l'espérance chrétienne, elle croit que du nouveau peut encore surgir, peut encore jaillir. Et elle reconnaît, dans toutes les situations bouchées, hein, où du nouveau peut jaillir, que ce soit la crise écologique, que ce soit l'horizon même de la fin des temps et de notre espérance d'un monde nouveau, mais que ce soit dans le quotidien, dans tous les horizons bouchés, reconnaître dans ce qui peut jaillir d'inespéré, dans ce qui peut jaillir de nouveau, dans ce qui peut jaillir d'inattendu, quelque chose de la venue de Dieu. Alors là, je m'inspire beaucoup d'un théologien protestant, je l'ai cité, mais Jürgen Moltmann, dans son livre justement « La venue de Dieu », cette venue de Dieu qui agit par son esprit dans le monde d'aujourd'hui, pas, quand je dis ça, je pense pas à un magicien ou à quelque chose d'extraordinaire, un deus ex machina qui arrive là et qui résout nos problèmes. Nous croyons, enfin, comme chrétiens, en un Dieu de la médiation, un Dieu qui agit avec et par les hommes et les femmes de bonne volonté, avec et par les événements. Voilà. Une espérance que quelque chose est encore possible. Et donc Moltmann, dans ce livre-là, La venue de Dieu, il fait la distinction entre le futur et l'avenir. Il dit le futur, c'est ce que nous pouvons prévoir à partir de la situation que nous connaissons, le présent, et puis des lois biologiques, physiques, économiques, voilà, des lois que nous connaissons, donc nous projetons la situation en fonction des prévisions. C'est les courbes du GIEC, le futur. Voilà. Et c'est très utile et très nécessaire. Mais l'avenir, il est du côté de... du nouveau qui peut encore surprendre, qui peut encore, qui pourrait jaillir, qui pourrait fausser ces successions-là. Du nouveau qui peut arriver et l'espérance, elle nous donne d'en repérer les signes et les prémices déjà présentes, justement, dans tout ce qui germe de neuf, de nouveau, du plus, de l'imprévu, de l'ordre de la grâce, on peut dire. Et donc vraiment, le futur, la prévision, encore une fois, Moltmann ne dit pas du tout qu'il n'en faut pas. Il nous faut ça pour orienter notre agir, pour savoir là où nous ne voulons pas aller et pour ne pas y aller. Mais pas sans une espérance que ce n'est pas le tout de la réalité, ces courbes-là. Qu'il y a quelque chose du nouveau qui surgit dans nos vies. Donc ça, c'était le deuxième point. Ça va Le troisième point de l'espérance chrétienne, né du mystère pascal, c'est que ce n'est pas une espérance d'un truc qui arrive du ciel, justement, et qui aurait aucun lien avec ce que nous vivons et avec ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, c'était ma grande question, en fait, ce que je vous raconte, c'était mon mémoire de licence de théologie, mais... Ma grande question, c'était au fond si est-ce que l'espérance chrétienne, c'est un... Bon, c'était il y a... C'était quoi ? Plus de 10 ans, donc... dans l'Église catholique en France, les questions écologiques, c'était pas glorieux à cette époque-là. On pouvait vraiment avoir l'impression, justement, un peu d'un optimisme facile, de « Dieu est avec nous, donc ça va s'arranger ». Donc, ma première question, c'était « Est-ce que c'est vraiment ça, l'espérance chrétienne, quoi ?» Bon, voilà, je vous ai dit un peu pourquoi je crois que c'est pas ça. Et puis ma deuxième question, c'était, si cette espérance, elle se base sur le nouveau qui vient de Dieu, est-ce qu'au final, on n'a qu'à se tourner les pouces et attendre ? Ouais, c'est quoi ce nouveau qui vient de Dieu ? Et ce qui me marque encore dans cette espérance, enfin dans ce passage par le mystère pascal, c'est... Donc encore une fois, dans ces récits, là, où les disciples rencontrent le ressuscité... Ils ne le reconnaissent pas au début. Voilà, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Il est différent, transfiguré. Et en même temps, ils le reconnaissent aux traces de sa passion, je vous ai dit. Donc c'est bien le même. Enfin, il n'y a pas de doute. C'est pas un autre Jésus qui ressuscite. Donc il y a quelque chose, voilà, c'est complètement nouveau. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et en même temps, c'est le même. C'est celui qu'ils ont connu, c'est celui qui a vécu avec eux. C'est pas déconnecté, quoi. Donc une espérance de la résurrection. On parle souvent de Paul, Saint Paul, parle de la résurrection à l'image de la graine qui devient plante, ou de la chenille qui devient papillon. Ça, c'est pas Paul, mais entre la chenille et le papillon, bah, pas sûr de reconnaître la chenille dans le papillon, quoi. Mais c'est le même être. Et donc, il développe ça pour nous dire c'est bien cette terre-ci qui doit être. Qui sera transfiguré. C'est pas une autre qui va être parachutée, quoi. Et au passage, c'est toute cette terre-ci. Hein. L'espérance chrétienne, elle est bien une espérance pour tout le vivant. Elle n'a jamais été, enfin, je crois que c'est vraiment une hérésie de penser que c'est une espérance pour l'humanité seule. Et c'est tout ce vivant qui est transfiguré, qui revêt l'incorruptibilité, écrit Paul. Et non pas, voilà, encore une fois, une autre terre, d'autres cieux qui viendraient d'on ne sait où, quoi. Pour moi, c'est très important parce que ça veut dire que notre espérance, elle n'est pas l'attente d'une autre terre qui viendrait remplacer celle-ci ou l'attente d'un nouveau dans nos quotidiens hein, qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, ce que nous vivons. Mais c'est ce monde-ci. Qui est transfiguré, qui est recréé de façon nouvelle. C'est pas quelque chose qui va jaillir de nulle part, quoi. Et c'est à la fois un donné qui nous dépasse totalement. Nous n'avons aucune prise sur la résurrection. Enfin, c'est pas le fruit de notre œuvre. Et en même temps, voilà, pas déconnecté de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, autrement dit, ça abolit pas l'éthique, quoi. Sinon, oui, je pense que notre espérance, elle peut abolir l'éthique. Une espérance d'un truc qui va jaillir d'ailleurs. Mais c'est enfin voilà, comment le penser? parce que la résurrection est, enfin ce que nous espérons c'est alors là je parle au niveau eschatologique, enfin, ce que nous attendons c'est ce nouveau, cette terre nouvelle, c'est ce monde-ci transfiguré, je disais, donc purifié de tout mal et où tout ce qui est, le pape François dit au numéro 244 de Laudato si, où tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Donc, au fond, la résurrection ou la transfiguration ou le nouveau, on peut le penser comme l'accomplissement de tout ce qui est bon dans nos vies. L'accomplissement de tous les liens. L'accomplissement de tous nos liens entre nous, de tout ce que nous aurons tissé. De tous les liens d'amour qui traversent notre existence, lien à Dieu, lien au prochain, lien à la nature. Même l'accomplissement et la révélation de l'amour caché dans la vie présente. Voilà, vraiment penser la résurrection. Ouais, de révélation de la survie, mais enfin, pas la survie, l'épanouissement plutôt, de ce que nous faisons ou ce que nous essayons de faire de bon, de l'amour vécu, des liens tissés. Et Moltmann dit, c'est cela qui est ressuscitable. C'est Dieu qui ressuscite. C'est pas nous, ça vient pas de nous. Mais il ne peut ressusciter que ce qui a un poids d'éternité. Et ce qui a un poids d'éternité, c'est l'amour vécu aujourd'hui. Il dit, voilà, l'amour est la force immanente de résurrection dans la chair. Bon, c'est son vocabulaire, mais voilà. Comment c'est ça qui est ressuscitable, parce que c'est ça qui a un poids d'éternité. Du coup, tout ce qui aura été vécu de bon, tout ce que nous aurons essayé de tisser, tout ce que nous aurons essayé de faire, y compris si ça n'a aucune portée au final, si c'est un échec complet à vue humaine, et ça pour moi c'est hyper important aussi, s'engager dans des luttes écologiques ou sociales, où c'est aussi se confronter à l'échec, c'est aussi se confronter... bien des fois à l'impuissance, mais pour Voilà, mon espérance, elle est que ça, c'est pas vain. Parce que ça a un poids d'éternité qu'un autre ressuscitera. Enfin, voilà, après, je ne sais pas bien, là, mais. Et que à la fois, ben, ce nouveau que j'espère de Dieu, je l'espère de lui et pas de moi. Enfin, mais voilà, pas indépendamment de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, c'est oui, une espérance qui n'abolit pas l'éthique, qui ne pousse pas à l'inaction, mais au contraire, qui rend possible l'action. Je crois qu'il y a deux écueils, quoi. C'est soit de se dire l'action, elle est pas possible, y compris, bon, voilà, si je me confronte à l'échec, ben, autant abandonner. Soit au contraire, de penser que c'est que nous. Que le résultat doit être à la. Enfin, que c'est de nous que viendra le résultat. Et en fait, on sent bien que bah, ça aussi, ça nous conduit vite à l'inaction parce que ça nous dépasse, quoi, ces enjeux-là. Donc, si c'est à nous de sauver le monde, bah, on s'arrête très vite, quoi. Voilà, devant l'ampleur des défis écologiques, enfin, en particulier qui dépassent vraiment l'horizon de nos possibilités. Le découragement risque de nous conduire à l'inaction. Et c'est justement parce que nous n'attendons pas le résultat de nos actions de nous-mêmes, mais d'un autre, que nous pouvons agir sans voilà, être obsédés par la réussite, par ouais, ou l'angoisse de l'échec, c'est l'inverse. On pourrait dire les fruits sont dons de Dieu, quoi. J'agis, mais les fruits sont des dons reçus. Encore une fois, qu'on parle à l'échelle de l'eschatologie ou qu'on parle dans chaque situation, quoi, où, enfin, voilà, situation très concrète pour moi, au secours avec des situations un peu désespérées. Je regarde un ami, voilà, avec un gars sans papier à la rue. Que j'ai dû conduire à l'hôpital psychiatrique, voilà, et qui, ben, quelque chose s'est ouvert, aujourd'hui il va bien. Et il fallait qu'on mette tout en œuvre ensemble, avec les autres bénévoles de l'équipe, et en même temps, le résultat, il dépendait pas de nous, quoi. Enfin, d'une certaine manière, il a été reçu parce que des choses se sont enclenchées, parce que du nouveau, de l'imprévu, du possible a été possible dans une situation sans issue. C'est peut-être, enfin, vous le sentez, tout ça me renvoie à cette formule qu'ont tous ceux qui ont vaguement croisé des Ignatiens dans leur vie connaissent, mais cette formule très compliquée là, donc d'Evenezi, d'un jésuite du hongrois du 18e, je crois, peu importe, dit: agis comme si tout dépendait de Dieu et en rien de toi. Et puis, fais confiance comme si tout dépendait de toi et en rien de Dieu. Force volontairement paradoxale, mais qui nous dit bien quelque chose de mettre tout en œuvre et au fond, savoir que le résultat ne vient pas de nous seuls, quoi. Parce que sinon, c'est souvent trop désespérant et finalement, on abandonne l'affaire. Est-ce que ça va pour cette première partie? Voilà, qui était un peu la plus costaud. Donc, cette espérance chrétienne qui nie pas la mort, qui croit au nouveau, d'un nouveau pas complètement déconnecté. Donc, ce nouveau, c'est l'horizon réouvert, celui de la terre après la mer traversée, celui de la vie après la mort traversée. Et il me semble que pour espérer, il y a justement besoin de cet horizon. Alors peut-être, j'aimerais entendre, on sait, on en reparlera, hein, mais voilà, ceux qui justement n'appuient pas leur espérance sur une foi chrétienne en particulier, une foi en un Dieu, qu'est-ce que c'est que cet horizon pour chacun de nous? Pour nous chrétiens, c'est l'horizon du royaume de justice, du royaume de réconciliation universelle. Ces grands textes là dans le prophète Isaïe, encore une fois, hein, réconciliation universelle, donc de l'humain, du non-humain. Voilà, ce royaume où l'enfant étendra la main sur le trou de la vipère, enfin, sur l'ours et la vache iront paître ensemble, etc. Enfin, il y a quelque chose d'une réconciliation universelle. C'est ça notre horizon. Pour d'autres, peut-être l'horizon d'une société juste, d'une société conviviale. Et ça marche ensemble. C'est pas l'un. Ben... Peut-être pour comprendre cette nécessité d'un horizon, j'ai envie de dire un mot rapide du livre de l'Apocalypse, alors qui sera sûrement. Enfin voilà, d'autres en diront plus dans la troisième séance. Pour montrer comment l'horizon à venir nourrit le présent et réoriente le présent. Bon, le livre de l'Apocalypse, c'est ce livre très compliqué, là, à la fin de la Bible, on n'y comprend rien. C'est plein d'images incompréhensibles. L'impression d'un langage codé, enfin, c'est pas complètement faux. Mais qui nous raconte l'histoire des chrétiens des premiers siècles, du premier siècle, qui résistent dans l'Empire romain, qui résistent contre la tyrannie, des pouvoirs vraiment une. Enfin, c'est une description vraiment intéressante de comment les pouvoirs économiques, politiques peuvent devenir des tyrannies et comment c'est l'espérance que ces pouvoirs-là seront détruits qui fait tenir les chrétiens face à la bête de l'Empire romain parce qu'ils savent que le dernier mot de l'histoire sera au Christ qui relèvera les opprimés, les humiliés. Et ça, ça leur savoir cela, ou faut croire cela, avoir cet horizon-là, même s'ils n'en avaient aucune, pour le coup, aucune raison d'y croire dans la situation actuelle qui était la leur. Hein. Mais avoir cet horizon-là, ça leur permettait de tenir dans le présent, de tenir contre cette tyrannie des puissants, de résister dans leur foi, dans ce qu'ils croyaient juste. Voilà, même si ça avait peut-être aucune utilité, hein, pour le coup. C'était pas tellement dans l'Apocalypse, c'est pas tellement l'horizon de changer les structures, quoi. Mais de résister dans une posture de ce qui est juste pour nous. Et leur espérance, elle n'était pas l'espoir qu'ils allaient bien s'en sortir. Enfin, à vue humaine, c'était franchement pas très réaliste. Plutôt le martyr qui attendait beaucoup. Mais qu'au final, l'histoire leur donnerait raison s'ils tenaient dans cette posture de justice, de fidélité à Dieu, au Christ. Et voilà, ce qui m'intéresse avec ça, c'est comment cette foi dans cet horizon, dans cet avenir, rendu possible par la foi en la promesse de Dieu, finalement, interrompt leur présent, retourne leur présent. Enfin, l'espérance, elle est féconde pour aujourd'hui. Parce qu'au fond, elle leur permet de résister et elle leur permet de vivre ce qu'ils attendent. Et finalement, elle fait advenir déjà ce qu'ils espèrent. Parce qu'ils peuvent vivre, alors c'est ce qu'ils attendent. C'est l'horizon les valeurs de justice, de partage. Et du coup, voilà, de manière incroative, quelque chose de cet avenir est déjà présent. Et je pense que pour nous, il y a quelque chose de cet appel à cette forme de résistance. Quoi. Savoir que le dernier mot de l'histoire... N'est pas la puissance de l'argent, n'est pas... Ça nous permet aujourd'hui de choisir des vertus de sobriété, de partage, de solidarité, même si nous devions être les grands perdants. parce que cet horizon nous permet de vivre ça aujourd'hui et finalement de le rendre déjà présent, même si c'est à petite dose. Catherine Chalier, petite interlude de citation, encore due à Cécile Renoir. Espérer, c'est avancer en pensée, avec sa sensibilité, en posant des actes et en témoignant par sa vie, vers une réalité encore imperceptible. Une réalité invisible, ici et maintenant, mais qui déjà nous incline à aller vers elle et ouvre dans notre présent un espace pour elle. D'orienter vers une réalité invisible, hein. On n'en voit rien pour l'instant, mais qui du coup rend quelque chose de cette réalité présente, enfin ouvre un espace pour elle dans notre présent. Voilà, donc ça c'est comment peut-être, pour nous c'est cet horizon-là, mais comment des utopies, comment des récits, des imaginaires peuvent nous mobiliser et devenir pour nous justement cet horizon, quoi. Qui réoriente notre présent. Alors, j'aime en même temps ce que dit Ricoeur qui écrit, et j'ai pu rechercher la citation, enfin où c'est, mais à un moment, l'utopie doit montrer les premiers pas de sa réalisation. Si elle ne veut pas, le risque de l'utopie, c'est éventuellement la violence. Si elle ne montre pas les premiers pas de sa réalisation, enfin, si elle ne montre pas le chemin. Il y a ce que nous vivons aujourd'hui et ce vers quoi nous savons que nous allons si nous continuons comme ça, les courbes du GIEC. Enfin, c'est plutôt comme ça d'ailleurs, mais bon. Il y a cet horizon, cette utopie, cet horizon espéré, voilà, qui est nécessaire pour espérer. Mais pour espérer, je crois qu'il faut quelque chose du chemin entre les deux. Et peut-être que c'est ça qui nous manque le plus dans nos sociétés. C'est d'avoir une idée, peut-être que c'est ça à quoi il faut éduquer ou former ou j'en sais rien quoi, trouver ensemble plutôt, quelque chose de ce chemin. Parce que si, voilà, pour espérer, il faut pouvoir ne pas rester à l'actuel et ce que ça va devenir, mais peut-être pas simplement avoir un horizon, mais aussi pouvoir montrer les premiers pas. Voilà, Ricoeur dit, sinon l'utopie, ben, comme elle est inatteignable, elle peut conduire soit à la violence révolutionnaire, au sens de la révolution, pas celle qui fait bouger les choses et les structures, mais qui le fait d'une manière violente parce qu'elle n'a pas de moyens, enfin, elle ne sait pas quels sont les premiers pas de sa réalisation autrement, soit à l'abandon parce que cet avenir, il paraît très, très lointain et impossible. Donc pour espérer, il me semble qu'il y a cette nécessité d'un horizon, cette nécessité des premiers pas et cette nécessité d'être à plusieurs. Quelques temps, j'intervenais avec une psychiatre qui parlait de l'éco-anxiété. D'abord, qui disait ce qui est pathologique, c'est pas l'éco-anxiété. Ce qui est pathologique, c'est de ne pas éprouver des co-anxiétés. Objectivement, enfin, ça signifie un espèce de blindage affectif probablement plus grave que les co-anxiétés. Après, bien sûr que les co-anxiétés n'est pas un état désirable, ni qu'il faut en rester là. Enfin, mais c'est pas pathologique, quoi. Mais pour en sortir, effectivement, on sait bien que s'il faut, c'est être avec d'autres. Ne pas rester seul avec son éco-anxiété dans son coin, se mettre à agir au sens de retrouver une marge, même minime, mais une marge d'action, enfin une prise sur le monde, aussi petite soit-elle. Voilà, et pour moi, c'est ça, les premiers pas de la réalisation. C'est pouvoir retrouver, à la fois savoir que c'est pas à moi de résoudre tous les problèmes, et en même temps de savoir que même si c'est microscopique, se mettre à agir avec d'autres, quoi. Sans bien que, enfin, ouais. Pour moi, c'est dans ces lieux d'engagement très concrets qu'on peut retrouver cette manière petite mais réelle de vivre avec d'autres qui nous tient à cœur. Cette microscopique mais réelle part pour la construction d'un monde de cet horizon que nous espérons. Sinon, ça peut être si ne pas en rester qu'aux idées, ou parce que sinon, ça peut être hyper déprimant et hyper morbide, nocif. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les plus vulnérables de nos sociétés sont vraiment précieux dans ce combat-là. Parce qu'il nous oblige à aller vite vers de l'action. Enfin, c'est urgent de changer leur vie. et changer quelque chose dans leur vie, pas de changer leur vie, mais d'agir. Et du coup, on ne peut pas en rester juste aux idées, juste aux prévisions, quoi. Il faut du concret rapide, même si c'est tout petit ce qu'on peut faire. Mais voilà, et ça, je crois que ça permet de sortir, enfin, de cette éco-anxiété, de cette désespérance. Quand on est dans le cycle, là, espoir, désespoir, désespérance. Putain. Bon, dernier point, et j'ai peut-être déjà beaucoup trop posé, donc je vais vous raconter.
C'est bien aussi qu'on arrive. On se prend
Je vais bientôt finir. Dernier point, c'est autour de ce combat spirituel pour tenir dans l'espérance. L'espérance, elle est donnée, mais elle est aussi le fruit d'un travail, d'un exercice plutôt. Du coup, ouais, il me semble que ça relève d'un combat spirituel que je crois qu'il y a un choix ou une décision pour chacun de nous de nous tenir sur cette crête qui n'est pas voilà, ni l'optimisme naïf et finalement coupable. Ni la désespérance au sens de fascination pour la mort ou pour les catastrophes. Ouais. Parce que ça ne peut que nous paralyser et finalement nous conduire à la catastrophe que nous redoutons. Quoi. Enfin, quelque chose dans la dramatisation. Enfin, un jésuite qui écrivait, voilà, la dramatisation est toujours c'est toujours un mensonge. Je sais que ça m'avait, je m'avais un peu bataillé avec cette phrase-là, moi. parce que peut-être je suis un peu dans la dramatisation, ce serait plutôt mon penchant naturel. mais d'entendre que, oui, c'est un mensonge quand c'est de l'ordre de, finalement, d'en rajouter, enfin, se laisser avoir par cette fascination pour la mort, hein, se mettre la tête là-dedans, je ne sais pas comment le dire. Et j'aime beaucoup ce que Pierre Fabre, donc un des compagnons de Saint Ignace de Loyola, un des premiers jésuites, était aussi à un moment un peu désespéré devant la situation du monde et devant sa mission. Et il crée, mais. Alors voilà, il a invité, c'est son langage, hein, à tenir tête à l'ennemi de la nature humaine, qui fait voir les choses toutes négatives comme il voudrait qu'elles soient, pour nous décourager et pour qu'elles deviennent vraiment ainsi. Voilà. Donc, il sentait bien, au fond, qu'il y a quelque chose de... Ça vient pas de Dieu, on va dire comme ça. Ce truc qui me fait voir tout en noir, et qui finalement me décourage, et fait que bah, j'abandonne tout combat, et les choses finissent par devenir toutes noires, quoi. Voilà, et de sentir que la résistance, ou être du côté de Dieu, c'était se forcer à ne pas voir tout en noir. Quoi. Enfin, encore une fois, hein, pas dans une espèce de méthode quid de tout va bien, mais sans dramatiser non plus. Quoi. Catherine Chalier le dit autrement, mais la bénédiction serait de savoir et d'éprouver que la déréliction, donc la désespérance à laquelle on cède volontiers, quand la force de séduction du mal reste ardente en chacun, est précisément un effet de cette séduction. Alors, la désespérance, elle a un effet de la séduction du mal. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on y passe pas, et que c'est pas un jugement moral, hein, mais sentir que c'est pas là qu'il faut rester, parce qu'au fond, on va se paralyser, on va... Et que ça reste toujours de nous nous conduire plutôt au repli sur nous. Si tout est fichu... Si l'horizon est bouché, eh ben, au mieux, ce que je peux faire, c'est protéger ma petite vie, protéger ce qui me, voilà, ce qui me reste, ce qui nous reste de bien. Et quitte, je fais ça, mais c'est protéger par la violence. Il faut en construire des murs pour protéger ce qui nous reste de bien, ce qui nous reste de ressources dans notre Europe qui est dans cette posture. De peur, de désespérance et donc de repli sur elle-même. Et voilà, l'espérance, si elle n'est pas un optimisme naïf, elle va me permettre de regarder au-delà de cet horizon et de vivre en fonction de cet avenir. Espérer, même si je ne dois rien en voir mon vivant, vivre la sobriété, le partage, auquel la crise écologique nous convoque, c'est clair. Mais finalement, en découvrant que c'est bien là, et je crois que l'évangile nous a normalement appris, ou, mais quand je dis ça, je m'inclus, hein, que c'est bien dans la sobriété et le partage qui est le seul vrai chemin de vie. Et que du coup, oui, l'horizon se rétrécit, oui, les conditions d'existence deviennent plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas encore du bon à vivre, qu'il n'y aura pas encore du bon à vivre. Parce que si je suis bien ancrée dans cette expérience qu'il y a dans la fraternité, dans la sobriété, dans le partage du bon, et quelque chose qui rend pleinement vivant, c'est justement ça à quoi la crise écologique nous convoque, à ce partage-là. Et donc, il sera encore possible d'aimer, et tant qu'il sera possible d'aimer, la vie aura un sens.
Merci beaucoup. Bon, on va juste poser deux petites questions avec Timothée, puis ensuite on vous laissera poser toutes les questions que vous aurez, enfin, toutes jusqu'à une certaine heure, mais vous pourrez poser des questions directement à Hélène. Et donc la première qu'on avait préparée, c'est aussi pour faire un écho aux réflexions qu'on pourra avoir la semaine prochaine, donc ça peut être ouvrir une petite amorce, teasing pour tous. Tu parlais à la fin du fait que et au début finalement c'était ce qui a borné finalement ton intervention, que l'espérance est une vertu héroïque qui devait quand même s'exercer. Et du coup, est-ce que tu penses que à ce titre, des rituels ou des formes, des passages obligés peuvent l'aider à se soutenir? Si oui, ce serait lesquels? Dans quelle mesure ne pas non plus compter que là-dessus? Enfin, je ne sais pas quelle place tu donnerais à ces rituels collectifs, mais aussi individuels.
Oui, je pense que l'espérance a besoin de rituels. Parce que, enfin, oui. Ouais. On dit, hein, l'espérance, c'est une vertu. L'éthique des vertus est intéressante, enfin, je trouve, parce que, pour faire très bref, hein, mais la morale chrétienne a été beaucoup dans une éthique déontologique, une éthique de la loi. Voilà, j'agis en fonction de la loi morale, donc devant un acte, soit c'est possible ou c'est caricatural, hein, mais c'est permis, c'est défendu, quoi. Donc ça, c'est une éthique vraiment déontologique, une éthique de la loi. Elle a toujours refusé une éthique conséquentialiste, bon, qui regarde si je fais ça, il se passe ça, et je calcule les résultats et ce qui serait le mieux. Et un peu la troisième possibilité, sur laquelle le pape François a, à mon avis, beaucoup, mais enfin, c'est pas mon avis, c'est cette éthique des vertus qui finalement cherche à développer plutôt une éducation qui va pas faire appel simplement à la loi, donc à la raison, mais qui reconnaît que la construction morale, l'éducation morale, elle se base aussi sur des émotions, sur de l'imagination, et donc sur des récits, sur des rituels, sur beaucoup d'autres choses que la simple raison et l'apprentissage, entre guillemets, de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. En fait, on s'en rend bien compte, hein, dans le cadre de la crise écologique. Enfin, on sait, mais ce n'est pas pour ça que globalement, j'imagine, la population française sait à peu près la situation et sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Arrêter de prendre la voiture tout seul, ou je ne sais pas. Ce n'est pas pour ça que ça se transmet en acte. Enfin, bon, les éco-psychologues là, parlent de dissonance cognitive ou de... Mais, et du coup, l'éthique des vertus, elle, en fait, c'est aussi tout. Enfin, il faut cet horizon, justement, et cet horizon, il se construit par des récits, par des films, et par des rituels. Enfin, et moi, je crois plutôt à des rituels collectifs, parce que je crois qu'on sort de l'éco-anxiété vraiment en étant avec d'autres. Quoi. Puis je pense qu'en fait, dans la tradition chrétienne, tout rituel est toujours collectif, même si c'est. même si c'est à deux, mais quelque chose de fondamentalement collectif. Bon, c'est rapide, mais du coup, c'est... Enfin, voilà, le rituel, il éduque notre sensibilité et notre être global, quoi, parce que ça touche au corps, ça touche à la poésie, ça touche à la musique, ça touche à... C'est pas que dans la raison. Et une morale que de la raison, elle est finalement inefficace, quoi.
Et du coup, une dernière question avant de passer aux questions des gens.
Ouais.
Pour aussi faire le lien avec notre troisième, la troisième conférence du cycle. Donc, tu as pas mal parlé de cette attitude qui est de rester un peu bloqué au stade de la désespérance. Et donc finalement d'être dans une espèce de repli et de stationnement sur la mort, sur le mal, etc. Est-ce que tu penses que la collapsologie ou plus largement les mouvements de pensée autour de l'effondrement se situent dans ce blocage-là et qui serait une forme d'apocalypse sans royaume ou de fixation sur la fin du monde amputée d'espérance, ou est-ce que tu y vois quand même une lumière possible?
Je suis pas une spécialiste de collapsologie, hein, mais loin de là. Il me semble en fait qu'il y a quand même plusieurs courants, et Servine et ses copains là écrivent Une autre fin du monde est possible. C'est la traversée des effondrements et qui ouvre à quelque chose d'autre. Donc là, on peut être assez en temps des similitudes avec ce que j'ai dit de la traversée de la mort. Par contre, effectivement, il y a des postures effondristes qui survivalistes, quoi, qui vont plutôt aller du côté justement de il n'y a pas de royaume derrière, et du coup, je construis mon bunker. Et je me protège, et voilà. Donc, je pense que, à mon avis, il y a un peu. Enfin, mais je serais contente d'entendre ce que d'autres diront là-dessus. En tout cas, cette expression d'apocalypse en royaume, là, vous savez, elle vient Günther Anders, par rapport à la menace nucléaire. Il dit, la Bible nous parle d'une apocalypse qui conduit au royaume. Les Lumières nous parlent d'un royaume sans apocalypse. Donc, c'est le progrès qui va conduire au royaume, mais il n'y a pas de passage. Et la menace nucléaire, elle conduit à une apocalypse. Il n'y a rien derrière. Il n'y a que le néant. Et au fond, chez lui, c'est hyper pessimiste. Hein, c'est impressionnant. ça me conduit pas du tout à agir, quoi. Mais... Dis, tu te lèves le matin, tu penses atome, tu penses menace nucléaire, tu t'habilles, tu penses menace nucléaire. Il y a une citation à peu près comme ça. mais du coup, c'est vraiment comment la peur, pour lui, c'est vraiment faire peur pour que la catastrophe n'arrive pas au final. Hein. C'est quand même bien ça le but, mais faire peur par la catastrophe pour qu'elle n'arrive pas. Mais c'est vraiment une éthique de la peur, quoi. Et là-dessus, moi, je trouve un peu plus intéressante la posture d'Hans Jonas, principe responsabilité, qui effectivement dit, se base sur il faut faire peur pour qu'on réagisse et que justement que la catastrophe n'arrive pas. Mais à un moment, il a cette phrase où il dit la peur est le premier pas de l'éthique. Si elle est le premier pas, c'est qu'elle n'est pas le second. il me semble qu'elle peut être le premier pas de l'éthique. Et probablement que quand on est dans l'optimisme naïf ou quand je ne sais pas quoi, peut-être que la peur est chez certains, et après ça dépend aussi des tempéraments, mais peut être un déclencheur, peut être un premier pas. Mais il me semble que le moteur durable, pour moi, il est plutôt du côté de l'horizon désirable, et pas de la peur seulement. Quoi.
Ok. Ben, merci beaucoup, et du coup, on écoute des questions.